Voilà, alors bonjour à tous. Alors, voilà.
Ça va mieux.
Alors, il y a quelques semaines, dans le message que j'ai partagé avec vous, il y a quelques semaines, donc j'avais... Ah, ben, du moment qu'on m'entend, c'est le principal. Donc j'avais partagé avec vous que dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, eh bien, on est poussé à avoir l'ambition de devenir quelqu'un d'important, de spécial, dans la vie professionnelle, dans le sport, dans une activité artistique. Et alors on avait vu que le plus important, c'est de devenir non pas un grand chirurgien, un grand professeur, un grand sportif ou un grand artiste, une grande vedette, mais que l'important c'est de devenir avant tout enfant de Dieu. Parce que ça va dépendre non pas notre vie, mais toute notre éternité. Et alors on a vu que pour devenir enfant de Dieu, eh bien nous avons dû reconnaître notre état de pécheur, nous repentir et accepter Jésus comme sauveur. Alors j'ai voulu faire une suite à ce message. Et donc la fois passée, nous avons terminé le message sur une note joyeuse, en nous rappelant le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu et la gloire éternelle qui nous attend. Et c'est vrai que on peut se réjouir de ça. Hein. Alors donc voilà, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est merveilleux, c'est magnifique. Alléluia. Mais tout est-il réglé pour la cause? Pas tout à fait. Et c'est là justement la suite que je voudrais donner au message précédent. Parce que les enfants, je ne parle pas seulement des enfants de Dieu, mais les enfants, les petits-enfants, ou les enfants, n'ont pas seulement des privilèges, mais ils ont aussi des devoirs envers leurs parents. Et en tant qu'enfants de Dieu, c'est vrai, certes, nous avons droit à toutes ces promesses que Dieu nous fait, mais nous avons aussi des devoirs envers notre Père. Les enfants doivent honorer leurs parents. « Honore ton père et ta mère », nous dit Exode 20, 12. Alors, comment pouvons-nous honorer notre Père? Bien sûr, nous pouvons, comme nous venons de le faire, nous pouvons le louer, l'adorer, chanter des cantiques, mais c'est surtout par un bon comportement que Dieu est honoré et glorifié. On dit souvent « tel père, tel fils ». Hein. Et c'est vrai que quand on voit une personne, ben on imagine un peu les enfants qu'il va avoir ou qu'il a. Et quand on voit des enfants qui se comportent mal ou qui se comportent bien, eh bien on se dit ben c'est le père, c'est la mère. Hein, quand on voit des personnes qui se comportent mal, on a tendance à penser que le père ou la mère, eh ben ils sont pareils quoi. Hein. C'est pas toujours vrai parce que parfois les parents ils font tout ce qu'ils peuvent, mais bon, les enfants prennent des voies qu'on ne maîtrise pas toujours, mais c'est vrai que les parents sont honorés par la conduite, le comportement de leur enfant. Quand les enfants se comportent bien, eh bien automatiquement, ben les parents sont honorés. Alors l'apôtre Pierre, il nous dit comment les enfants de Dieu doivent se comporter. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, ce sera notre première petite lecture. 1 Pierre au chapitre 1. On peut lire à partir du verset 13. C'est pourquoi, ceignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Voilà, des enfants obéissants. C'est un des mots importants de ce message, le mot obéissant, l'obéissance. Sommes-nous des enfants obéissants? Et pas toujours, hélas. Alors, parlons un peu de ce que c'est l'obéissance. Il y a, il me semble, plusieurs manières d'obéir, plusieurs façons. Il y a, d'abord, on pourrait dire, voilà, il y a l'obéissance de type militaire. Et on peut voir une illustration dans Matthieu 8. Matthieu 8 au chapitre 5, oui, c'est le passage où il y a un centurion qui vient aborder Jésus et qui lui dit, il y a mon serviteur qui est malade, et est-ce que tu veux bien le guérir? Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier lui répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, « Va !» et il va. À l'autre, « Viens !» et il vient. Et à mon serviteur, « Fais cela !» et il le fait. Voyez que, donc, le centurion, il dit à Jésus, moi, j'ai autorité sur mes soldats et sur mes serviteurs. Quand je leur dis de faire quelque chose, j'ai même pas besoin d'aller voir. Je sais qu'ils vont le faire parce qu'ils sont obéissants. Et toi, Jésus, comme tu as autorité sur tout, je sais que si tu demandes à la maladie de s'en aller, eh bien, la maladie va s'en aller. J'ai pas besoin d'aller voir. Je sais que ça va se faire. Donc ça, c'est l'obéissance militaire, on va dire. C'est une, c'est obéir sans poser de questions et tout de suite. On imagine mal une armée avec des soldats qui discutent, qui tergiversent pendant des heures lorsqu'on leur donne des ordres. Vous imaginez les soldats qui sont partis au Mali, par exemple, hein, les commandos qui doivent partir pour une mission quelque part. On leur dit pas 6 mois à l'avance, hein. On leur dit à la dernière minute, allez, hop, tu prends ton sac, on embarque. Alors vous imaginez que ils vont commencer, ouais, mais comment que ça se fait que c'est nous encore les Français qu'on doit y aller? Et pourquoi que c'est pas les Américains qui y vont? Et tout ça. Ou alors un autre qui va dire, ouais, mais moi ça m'arrange pas parce que j'avais prévu de partir une semaine avec mon épouse à Venise. Non. Ce serait une armée inefficace. Non, un soldat, on lui dit, voilà, tu fais ça, tu le fais. Une des raisons pour laquelle nous éprouvons parfois des difficultés à obéir, c'est parce que on se pose 36 000 questions. Et puis, on prend le temps. Alors, vous allez me dire, oh, mais on n'est pas à l'armée, hein. On n'est pas à l'armée ici, hein. Bon, faut pas exagérer. Peut-être bien. Mais ne sommes-nous pas soldats du Christ? Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et alors, nous l'avons chanté tout à l'heure, je l'avais noté ici, Ne chantons-nous pas avec ferveur debout sainte cohorte? Qu'est-ce que c'est une cohorte? Je savais bien que c'est... Mais toi, t'es hors compétition, toi. Dans la Légion romaine, il y avait 10 cohortes, je pense. 10 cohortes de 600 soldats. Donc, une cohorte, ce sont des soldats. Alors, lorsque nous avons accepté Jésus comme sauveur, nous l'avons aussi accepté comme Seigneur. Et donc, en fait, nous sommes engagés, un peu comme ces militaires qui se sont engagés à obéir aux ordres, sans poser de questions. Et nous sommes engagés donc à lui obéir comme des soldats fidèles. On devrait, un peu comme les soldats de ce centurion, quand le Seigneur nous demande, nous dit « viens », on devrait aller. Quand il nous dit « va », on devrait aller. Quand le Seigneur nous dit « fais cela, fais ceci », on devrait le faire. Alors, oui, mais enfin, les soldats, eux, il faut agir dans l'urgence. Et moi, je peux peut-être prendre un peu de temps, quoi, hein, un peu pour réfléchir. Et la parole nous dit, dans Luc 12, 20, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée, redemandée. » Il y a toujours urgence à obéir, à se conformer à ce que le Seigneur nous demande. Parce qu'on ne sait pas de combien de temps on dispose. On ne connaît pas l'heure de notre mort, ni le jour où le Seigneur viendra. Et moi, je voudrais pas, ce jour-là, ce moment-là, que le Seigneur me trouve, alors que j'aurais pu régler quelque chose et que je l'aurais pas fait. Je sais que le Seigneur est bon, miséricordieux, mais j'aimerais quand même pas être dans ce cas-là. Alors, il y a un deuxième type d'obéissance, c'est l'obéissance, je vais dire, j'ai noté forcée. On se force à obéir. C'est un peu le cas des enfants. Et vous savez, quand les parents ils demandent quelque chose aux enfants, par exemple, lorsque le papa et la maman, ou la maman dit au petit enfant, « Allez, tu remets tes jouets, tu vas aller te laver, c'est l'heure de dormir. » Alors le petit enfant, il dit, « Oui, papa, maman, tout de suite, avec joie. Oui, mais comment donc ?» Ça se passe comme ça, hein, amical. Pas tout à fait, hein. Les enfants, ils cherchent des excuses, ou bien, papa, il n'est pas encore si tard, est-ce que je peux pas rester encore un peu plus longtemps? Alors les parents insistent, parfois ils doivent même un peu se fâcher, et finalement l'enfant, bon gré mal gré, il obéit quand même à ses parents. Alors il remet ses jouets, bon, il prend son temps, hein, pour faire durer le plaisir le plus longtemps possible. Mais il obéit quand même. Et je pense que les parents sont quand même contents. C'est vrai que parfois nous obéissons un peu forcé, un peu comme par obligation. Alors, certaines personnes m'ont dit, oui, mais quand je fais ça, est-ce que je suis pas hypocrite parce que je ne le fais pas avec tout mon cœur? Et j'avais dit à une personne qui disait, ouais, il m'a fait du mal, voilà tout ce qu'il m'a fait, tout ça. Je dis, ouais, mais est-ce que normalement tu ne devrais pas prier pour lui? Oh non, hein, oh non, je ne saurais pas, non, je ne suis pas prêt. Non, on a l'impression que quand on le fait par obligation, on est hypocrite. Moi, je pense pas qu'on est hypocrite. On est obéissant. Et moi, je suis convaincu que le Seigneur apprécie les efforts que nous faisons pour lui être agréable. Comme les parents, ils voient que l'enfant, il se force, mais ils sont quand même contents de voir que l'enfant obéit malgré tout. Et moi, je suis convaincu aussi que le Seigneur peut aider à éliminer tout ce qui reste en nous de colère, d'amertume, et il peut nous remplir d'amour pour cette personne qui nous a fait du mal. Moi, je me souviens qu'un jour, j'étais en train de penser, de ruminer dans ma tête tout le mal qu'une personne m'avait fait. Et j'étais là en train de penser à tout ça. Et puis alors, il y a une petite voix qui me dit, « Est-ce que tu n'es pas censé de prier pour cette personne ?»« Oh Seigneur, je t'aime, mais bon, qu'est-ce que tu me demandes là ?» Et puis je me suis dit, « Ben non, bon, c'est vrai que le Seigneur me le demande, je vais le faire. » Alors j'ai commencé à prier. Bon, au début, c'était laborieux. Hein. Au début, c'était pas avec peu de conviction. Mais petit à petit, ben, je me suis mis à prier vraiment avec tout mon cœur. Et je peux dire que le Seigneur m'a enlevé cette amertume que j'avais. Mais j'ai fait le premier pas. J'ai fait le pas d'obéir. Et aujourd'hui, eh bien, non seulement je n'ai plus de rancune ou d'amertume pour cette personne, mais j'éprouve même de la compassion. Mais, à un moment donné, il faut franchir le pas, obéir. Alors, bien sûr, l'idéal, ce serait obéir volontairement, avec joie, empressement, poussé par l'amour que nous portons à notre Père qui est au ciel. Et c'est ce que demande Paul à Philémon dans la lettre qu'il lui adresse. La lettre à Philémon, c'est une toute petite lettre, après Tite. Je n'ai pas besoin de dire le chapitre parce qu'il n'y en a qu'un, c'est ça qui est pratique. Et on peut lire à partir du verset 9. Ou plutôt, oui, d'abord je vais expliquer un peu la situation. Donc il y a trois personnages. Il y a Paul qui écrit à Philémon, qui est un grec qui s'est converti, qui est devenu chrétien et qui est riche, qui a du bien, qui a des serviteurs et même des esclaves. À l'époque, c'était comme ça. Et alors, il y a Onésime qui est l'esclave de Philémon. Et alors, Onésime, il s'est enfui de chez Philémon, probablement en volant quelque chose, et il va rencontrer Paul, et là, il va se convertir. Alors, Paul va renvoyer Onésime chez Philémon, mais avant ça, il écrit une lettre. Et dans cette lettre, il va demander d'accueillir Onésime, de bien l'accueillir en frère, en Christ, puisque Onésime s'est converti, et de lui pardonner. Ce qu'il a fait. Alors au verset 9, Paul dit, « C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. » Donc, il dit, c'est de préférence au nom de l'amour. Et un petit peu plus loin, au verset 14, Paul dit, « Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. » Donc, Paul demande à Philémon de pardonner à Onésime par amour, par reconnaissance envers le Seigneur, pour ce que le Seigneur a fait pour lui. Mais, cependant, au verset 8, il dit, « C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. » Donc, il lui dit, « Bien que je pourrais t'obliger à le faire, je pourrais t'obliger à obéir, mais je préférerais que tu le fasses de bonne grâce. » Et en plus, au verset 21, un petit peu plus loin, au verset 21, Paul dit, « C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. » Vous voyez que là, il dit, « C'est en comptant sur ton obéissance. » Donc là, il parle plus de l'amour, il parle de l'obéissance. Donc il dit, « J'aimerais bien que tu le fasses par amour, mais il dit, je compte quand même sur ton obéissance. Si nous avons parfois du mal à nous conformer à ce qui nous est prescrit par le Seigneur, à obéir, c'est peut-être parce que dans notre relation avec Dieu, nous avons tendance à privilégier un côté, c'est-à-dire le côté affectif. L'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Nous aimons vivre une relation joyeuse avec le Seigneur, une relation d'amour. Et c'est très bien. Nous chantons des cantiques, nous le louons, nous lui disons combien nous l'aimons. Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Mais est-ce que c'est suffisant? Jésus dit dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Il ne suffit pas d'aimer le Seigneur en parole, mais il faut aussi lui obéir. Lui démontrer qu'on l'aime, mais par notre comportement aussi. Dans notre relation avec Dieu, on oublie d'intégrer la crainte. Aujourd'hui, on n'aime pas dire le mot crainte, on dit respect. Mais moi, j'aime bien le mot crainte. Je trouve qu'il est plus fort. Notre relation avec le Seigneur, elle devrait être faite d'amour, bien sûr, mais aussi de crainte, de respect. Et c'est souvent là le problème. C'est souvent pour ça que l'obéissance est parfois difficile, parce que dans cette relation, il manque la crainte, le respect. Amour et crainte en même temps, ça paraît un peu contradictoire. Et pourtant, c'est ce que Dieu demande au peuple d'Israël par la bouche de Moïse dans Deutéronome 10. Au verset 12, Deutéronome 10, au verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Vous voyez que ici, dans un même verset, on voit réunies deux choses que Dieu veut, que Dieu attend de nous. Un, que nous le craignons afin de marcher dans ses voies. Deux, que nous l'aimions et que nous le servions de tout notre cœur. Donc il y a les deux. Il y a toujours les deux. Et nous, on a tendance à rester sur un seul côté de la relation, le côté amour, le côté affectif. Nous avons tendance souvent à soit aimer quelqu'un ou soit à le craindre. Par exemple, à l'école, moi je me souviens quand j'étais à l'école, il y avait les professeurs qu'on aimait bien, mais qu'on n'écoutait pas. Par contre, il y avait les professeurs qu'on craignait, mais qu'on écoutait. Et dans la vie professionnelle, à l'usine, eh bien, je me souviens, il y avait les contremaîtres qu'on aimait bien, mais qu'on n'écoutait pas. Et il y avait les contremaîtres qu'on craignait, mais qu'on écoutait. Les enfants, ils aiment leurs parents, mais ils n'écoutent pas toujours. L'amour, ça suffit pas. C'est pour ça que dans cette relation avec Dieu, elle doit être basée sur l'amour et la crainte à la fois. Dans certaines circonstances, nous avons besoin de la crainte pour obéir. Par exemple, lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est sous le coup d'une grande émotion, lorsque nous sommes attristés, découragés, on n'est pas dans notre état normal. Alors, on a besoin de la crainte et du respect pour pouvoir obéir. C'est vrai que on a besoin aussi d'un certain temps, hein, parce qu'il y a des moments où on n'est vraiment pas dans notre état normal et que on n'est pas capable de prendre une décision. Et je pense que je suis convaincu que Dieu aussi, il nous comprend. Il nous comprend, il sait que nous ne sommes pas dans notre état normal. Par exemple, quand on est en colère, seulement il faut pas que ça dure des années, quoi. Parce que on peut éprouver de la colère à un moment donné, mais on ne peut pas nourrir la colère. C'est-à-dire nourrir, ça veut dire lui donner à manger. Si vous alimentez la colère, ben, elle va durer longtemps. Et donc, vous allez rester dans cet état-là pendant longtemps. Et si vous dites, moi, je peux pas pardonner à cette personne-là parce que, comme le Seigneur me demande de pardonner parce que je suis encore trop en colère, j'ai besoin de temps, j'ai besoin que ça s'évacue. Ouais, mais il faut pas non plus l'alimenter. Nous avons besoin de cette crainte pour obéir à certains moments, pour nous ressaisir, pour nous dire, attention là, le Seigneur me demande de faire ça, il faut que je le fasse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire du Bounty. Le Bounty, je ne sais pas comment on prononce, Bounty. Pas la barre chocolatée avec de la noix de coco dedans. Hein. C'était un bateau, un voilier du XVIIIe siècle, de sa gracieuse majesté, comme ils disent les Anglais. Hein. Et c'était un navire de guerre. C'est une histoire vraie, hein, c'est tiré d'une histoire vraie. On en a fait plusieurs films. Et le capitaine de ce bateau, il est très dur avec son équipage. Peut-être même trop dur. Il est vraiment inflexible. Il n'admet aucune incartade. Et il réprime vraiment toute infraction à la discipline avec beaucoup de dureté. Et alors, son lieutenant, il n'est pas trop d'accord avec cette façon de faire. Hein. Et un jour, il lui fait remarquer, respectueusement, parce que à ce moment-là, on blaguait pas. Hein. On ne pouvait pas parler à un commandant n'importe comment. Mais il lui dit qu'il n'est pas d'accord avec cette façon de faire. Et alors, le capitaine du Bounty lui dit, nous, les officiers, nous ne sommes pas là pour nous faire aimer par les hommes d'équipage, mais pour nous faire craindre. Parce qu'il dit, lorsque les choses vont bien, c'est pas trop compliqué de se faire obéir. Mais quand il y a une tempête, quand on est au milieu d'une tempête, ou quand on est en plein combat, dans une bataille, où les gens risquent leur vie, où il y a du danger, où il y a des émotions, eh bien, si les hommes ne nous craignent pas, ils ne nous obéissent pas. Alors, il avait en partie raison parce que l'équipage s'est quand même révolté contre son capitaine. Et d'ailleurs, le film s'appelle Les Révoltés du Bounty. Parce que la relation qu'il entretenait avec son équipage, elle était uniquement faite de crainte. Il n'y avait pas d'amour. Or, la relation, elle doit être faite d'amour et de crainte en même temps. Alors, on pourrait dire, oui, mais puisque nous sommes enfants de Dieu, et que donc Dieu nous donne son Saint-Esprit, pourquoi agissons-nous encore mal? Pourquoi avons-nous encore de la difficulté à obéir? Le Saint-Esprit, est-ce qu'il ne pourrait pas nous empêcher de faire des bêtises, de mal nous conduire? Ne pourrait-il pas nous obliger à obéir automatiquement? Ben oui, ce serait facile, hein. Ben nous, on n'aurait plus rien à faire, quoi. C'est un peu ça, quoi. On pourrait se laisser tranquillement guider, comme on surfe sur une vague, là, tranquille. Et je pense que ce serait un peu trop facile. Parce qu'alors, où serait notre participation personnelle, notre responsabilité? Moi, je suis convaincu que Dieu veut que ses enfants soient des enfants libres, responsables, actifs, participants. Le Saint-Esprit nous fait prendre conscience de nos mauvais comportements. Mais n'est-ce pas à nous de décider de les abandonner? Bien sûr, en demandant à Dieu de nous aider. C'est vrai que le Seigneur dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Mais il ne dit pas, ne faites rien, je fais tout à votre place. Et on a une part aussi à faire. Cette part, c'est l'obéissance. Le Saint-Esprit nous montre le chemin, mais c'est à nous de le suivre. Il faut l'écouter. Dieu nous équipe, nous donne le Saint-Esprit, nous donne les moyens d'obéir et de nous comporter d'une façon correcte. Mais il faut se servir des outils qu'il nous donne. Ça ne sert à rien d'avoir un bel outil si on ne s'en sert pas. Le Saint-Esprit, moi, ça me fait penser un peu au GPS. Le GPS dans une voiture, il vous indique la route. Il vous dit, tourne à gauche, tourne à droite, va tout droit. Mais si, quand le GPS vous dit, va tout droit, t'occupe pas de ce qui est à gauche, à droite, va tout droit, et que vous vous dites, bah, moi j'ai envie d'aller à gauche, il faut pas donner la faute au GPS, hein, c'est pas de sa faute, hein. C'est vous qui n'écoutez pas. GPS, il vous indique la route, il vous dit ce qu'il faut faire, mais c'est pas lui qui a le volant. C'est nous qui avons le volant. Quand le Saint-Esprit nous dit « Fais demi-tour dès que possible. » Fais demi-tour dès que possible. Moi, j'aime pas de faire demi-tour. À moins qu'il y ait un rond-point. Autrement, faire des manœuvres, faire demi-tour, j'aime pas. Alors, je m'entête, je continue dans la même direction. Et j'espère que le GPS il va me trouver un autre chemin. Mais parfois, ça peut nous emmener très loin. Il vaudrait mieux écouter. Et quand le Saint-Esprit nous dit « Fais demi-tour dès que possible. » Il faut l'écouter. Mais nous, souvent, on préfère écouter nos émotions, nos désirs, nos envies. Ça me fait penser à un petit exemple. Moi, j'aime bien les bandes dessinées de Tintin. Depuis que je suis tout petit, hein, depuis que je suis jeune. Alors, de temps en temps, je vais dans ma bibliothèque, je vais chercher un Tintin, et j'aime bien de temps en temps me replonger là-dedans, ça me rappelle mon enfance. Et il y a quelques jours, je relisais un Tintin, et il y a une image qui m'a frappé, c'est dans Tintin au Tibet. Il y a Tintin avec le capitaine Haddock qui sont en expédition, là dans la montagne, et ils progressent le long d'un petit sentier, là. Et alors, le capitaine Haddock, évidemment, il a pris soin de prendre une bouteille de whisky, ou plusieurs bouteilles de whisky dans son sac. Et il n'y a pas que le capitaine Haddock qui aime bien le whisky, hein, dans Tintin. Et le petit Milou aussi, il aime bien. Plusieurs fois, on voit Milou qui goûte et il aime ça. Et alors, il y a une bouteille cassée, et il y a Milou qui trottine derrière, et il commence à avaler les petites gouttes qui tombent, là. Et il se dit, ah, oh, du whisky, oh, c'est bon ça. Et alors, vous avez un petit ange, l'ange de Milou qui arrive là. Un petit Milou tout blanc, habillé tout en blanc, avec des ailes, une auréole. Et qui dit, Milou, qu'est-ce que tu fais? C'est de l'alcool, c'est pas bien ce que tu fais. Tu te rends compte? Et puis alors, il y a un autre petit Milou qui arrive, mais tout en rouge là, tout rouge, avec des petites cornes, des ailes de vampire. Et qui dira, oh, elle n'écoute pas, ah, oh, c'est bon l'alcool, ça te met du cœur au ventre, c'est bien. Et alors finalement, Milou, il se laisse tenter, et il n'écoute pas le petit ange, il écoute le petit démon. Et alors le petit ange, vous voyez qu'il se met à pleurer, et il se retourne, et il s'en va, attristé. Attristé comme le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, eh bien aussi, nous aussi nous sommes attristés. Parce que on peut pas se réjouir comme on devrait le faire, comme on l'a dit tout à l'heure, se réjouir d'être enfant de Dieu. Notre joie, elle est gâchée. Parce que, on n'est pas bien parce qu'on sait quand même qu'on n'est pas en ordre avec le Seigneur. Alors, on ne peut pas avoir cette belle communion avec le Seigneur. On ne peut pas vraiment se réjouir de cette espérance, de ces promesses que Dieu nous a faites en devenant enfant de Dieu. Alors, on ne devrait pas gâcher cette joie, cette belle espérance. Mais plutôt, on devrait écouter ce que Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 7. On peut même lire la fin du chapitre 6, donc le verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous dans la crainte de Dieu. Encore ce mot qui revient. Il y a trois mots qui sont importants, je pense, dans ce message. C'est obéissance, amour, crainte. C'est vrai que, avec toutes ces promesses que nous avons, que Dieu nous fait, d'être pour nous un père, eh bien, on devrait ne pas gâcher cette joie. Purifions-nous, que Paul dit, purifions-nous. Ça veut dire, il ne dit pas, demandons à Dieu de nous purifier. Il dit, purifions-nous. Donc, ça veut dire que nous avons un effort à faire, une participation. Et puis que Dieu va faire le reste. Alors, pour terminer, Jésus, quand il a été sur la terre, il était homme, parfaitement homme, et il a connu tout ce que nous pouvons connaître. Et il a été le plus grand modèle d'obéissance, de fidélité à son Père. C'est ce que nous dit Philippiens 2:8. Philippiens 2, verset 8. Paul dit de Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez que Jésus a été obéissant, nous l'avons dit tout à l'heure, lors de la Sainte Cène, il a été obéissant jusqu'à la mort. Et même, c'est ça que j'aime bien dans ce verset, c'est qu'il ne se contente pas de dire « Jésus est mort ». Il est mort sur la croix. Ça veut dire que Jésus aurait pu choisir une mort plus, entre guillemets, plus confortable. Et non, il a vraiment choisi non seulement la mort, mais une mort atroce. Alors certes, Dieu ne nous en demande pas tant. Quoique, il y a des frères et des sœurs qui dans le monde sont persécutés, et parfois, on leur demande d'abandonner leur foi. Et ils résistent par obéissance au Seigneur, et ils obéissent jusqu'à la mort, ça peut arriver aussi. La plupart du temps, Dieu ne nous demande pas tant. Dieu, il nous demande de nous comporter d'une manière qu'il honore, et de nous montrer reconnaissants pour la grâce qu'il nous a faite, en faisant de nous ses enfants. Amen.